Eugénie Pradez, Pierrot. Debout au milieu de la cour, la jument grise fixait sur le sol un regard immobile. C'était une très vieille bête, aux gros jarrets poilus. Michel tourna une ou deux fois autour de l'animal. « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à cette carcasse-là? Quand un cheval refuse de marcher, on l'abat. Il n'y a pas d'autre remède, Rose Anne. » Tout en parlant, il fourra ses mains dans ses poches et ses yeux noirs cherchèrent ceux de la jeune femme. Mais elle évita de le regarder et dit, la voix hésitante, « C'est pour Pierrot, Michel. L'enfant y tient à cette bête. » Il murmura entre ses dents, « Pierrot, toujours Pierrot. » Mais la voyant faire un pas pour s'éloigner, il l'arrêta. « Ne vous inquiétez de rien, Rose Anne. On expédiera l'animal pendant l'après-midi. Quand votre gars reviendra de l'école ce soir, ce sera chose faite, il n'y verra que du feu. » Et baissant la voix, tout à coup, il ajouta, « Hé, Rose Anne, c'est oui pour tout bon cette fois, dites !» Elle murmura, « Pas à présent, Michel, on nous voit. »« Eh bien, c'est bon, on se retrouvera plus tard. Moi, je vais m'assurer de l'aide pour tantôt. » Il s'en alla. C'était un gaillard robuste. Il avait de la crânerie, de la force, de la santé, du sang. Tout ce qui avait manqué au père de Pierrot. Homme débile de naissance, qui, très peu de temps après le mariage, sentant la maladie monter en lui, s'était enfermé dans le silence et la tristesse. Rosanne regarda Michel s'éloigner. Quand il était à côté d'elle, elle oubliait le petit garçon qu'elle avait nourri de son lait et le père souffreteux, mort en pleine jeunesse. Elle oubliait tout. Mais dès qu'elle se retrouvait seule, une ombre tombait sur sa joie. Son cœur partagé restait rongé d'indécision. Quand le petit garçon revint de l'école, à midi, il trouva la jument à sa place habituelle et tout de suite il se hissa sur son dos. Entre ses petits pieds volontaires, il serrait le ventre bouffi et il criait « Hue la grise ! Hue !» Mais l'animal, si prompt d'ordinaire à se trémousser d'aise à l'arrivée de Pierrot, restait ce jour-là aussi indifférent aux caresses qu'aux sommations. L'enfant, étonné, sauta sur le sol. De ses bras flexibles, il entourait la vieille tête osseuse et il la cajolait, le cœur tourmenté d'appréhension. « Qu'est-ce que tu as, la grise ? Mon gros, qu'est-ce que tu as ?» Il ne la quitta qu'à l'appel de sa mère. Il s'en fut rejoindre Rose Anne avec un gros poids d'inquiétude dans l'esprit, mais il lui tut son souci. Depuis quelque temps, ses chagrins, il ne les confiait qu'à la grise, et ce jour-là, la souffrance secrète qu'il subissait, sans la comprendre, lui restait tout entière sur le cœur. Accompagné des deux forgerons du voisinage, Michel revint vers 3 heures, comme il l'avait promis. Et tout de suite, parce que Rose Anne était de celles qui attirent l'attention des hommes sans s'y efforcer, les deux ouvriers louchèrent de son côté. Très grands, tête nue, ils avaient gardé leur tablier de cuir. Comme un jouet très léger, leurs mains noires balançaient les gros marteaux dont ils façonnaient le fer et la forge. À leur vue, Rose Anne eut un regret de sa décision. Elle prit Michel à part. « Emmenez-les, Michel, ça ferait trop de peine aux petits. » Il dit, mécontent. « Il faudrait savoir ce qu'on veut, pourtant, et ne pas déranger 3 hommes pour rien. » Alors, pour ne pas le fâcher, elle se décida. « Vous avez raison, mais emmenez-la plus loin, la bête. Quand même, elle n'en aurait plus pour longtemps, c'est vrai. » Et elle rentra pour ne pas assister au départ du serviteur chargé d'année, que le père de Pierrot avait aimé et que le petit garçon, la mémoire pleine des choses du passé, continuait de chérir. Bien qu'elle eût fermé la fenêtre, Elle entendait le bruit des voix, le piétinement confus des pas, et elle devinait, entre les hommes impatients et l'animal effrayé et débile, la lutte inégale. Enfin, la rumeur s'affaiblit, puis elle cessa tout à fait. Rosanne souleva un coin du rideau. Le petit cortège s'en allait du côté des solitudes. Michel marchait le premier, tirant la corde. Les forgerons houspillaient la bête par derrière. Tout à coup, le groupe s'arrêta. Rosanne quitta vivement la fenêtre et alla s'asseoir au fond de la chambre. Les mains croisées sur les genoux, elle songeait aux jours d'autrefois, et une vague souffrance montait en elle. Si clairement, elle revoyait, juché sur la croupe énorme de la jument, le petit garçon, babillard et joyeux. Il criait « Hue, la grise !» Le dos de plus en plus voûté, le pas de plus en plus pesant, le père suivait de loin. Dans ce temps-là, Pierrot avait un air de santé qu'il avait perdu depuis. Sa gaieté aussi était morte. Il devenait taciturne et triste, comme l'avait été le père au cours de la maladie. Une impatience vint à la mère de voir revenir son enfant. Bientôt, pour guetter son retour, elle alla entrouvrir la porte. Du côté des solitudes, il n'y avait plus personne. C'était un pays de culture, une riche étendue de prés, de champs verdissants, et à l'horizon, presque insaisissable, la ligne diaphane de la montagne. Des parfums errants, de subtils arômes, promenés de ci de là par d'imperceptibles haleines, venaient de partout. Sur le seuil, Rosanne respira cette griserie tiède du printemps, et brusquement, son souci au sujet de l'enfant s'évanouit. Michel devait revenir avant le soir. Il le lui avait annoncé en la quittant. Alors il reviendrait sûrement. Et coûte que coûte, cette fois il faudrait dire oui ou dire non. À cette pensée, son sang courait jusqu'aux extrémités de ses doigts, et elle sentait bien que quand ils seraient seuls, en face l'un de l'autre, Michel et elle, et qu'il lui poserait la question, elle dirait oui. Tout à coup, au tournant de la route, elle aperçut Pierrot. Elle eut un sursaut, comme si la vue du petit garçon la prenait à l'improviste. Elle l'appela d'une voix incertaine. « Pierrot !» Mais au lieu de répondre à l'appel, Pierrot, sans regarder à droite ni à gauche, s'enfuit à toutes jambes du côté de l'écurie. Au même instant, une main lourde se posait sur l'épaule de Rosanne. Elle se retourna vivement. « Oh, Michel, je ne vous attendais pas encore, vous m'avez fait peur !» Il dit « Je ne peux plus patienter, Rosanne, alors vous voyez, je suis revenu tout de suite !» Il l'avait prise par les deux épaules, et ses mains pesaient sur elle comme du plomb. Le front pâle, sous les cheveux de jais, il se penchait, anxieux. « Rosanne, cette réponse, il me la faut cette fois !» Elle balbutia, sans le regarder. « Oui, Michel, je comprends. Mais voilà justement le petit qui rentre. Laissez-moi lui expliquer la disparition de la jument. 2 minutes, je vais et je reviens. » Il la laissa aller sans répondre et, courroucée, entra dans la maison. Elle hésita une seconde, puis elle le suivit. Elle l'aimait si fort que tout s'effaçait devant la minute présente. Elle n'avait plus qu'un désir, effacer du front de Michel le pli jaloux et menaçant. Il alla s'asseoir loin d'elle et dit froidement « Allez le chercher si vous voulez, votre gars, mais moi, quand vous reviendrez, je serai parti. » Elle se rapprocha, tremblante. « Michel !» Alors il se leva brusquement et la prit dans ses bras. Tout échauffé par sa victoire, et aussi parce qu'il l'avait attendue si longtemps, il se grisait d'elle. À la fin, elle se dégagea. « Non, Michel !» Et elle s'éloigna de lui, attristée. Elle n'éprouvait pas l'ivresse de joie qu'elle avait anticipée. Une ombre l'enveloppait. C'était comme une brume froide qui éteignait sa passion. Et elle fut heureuse que Michel ne pût pas s'attarder. Quand il reviendrait, dans la soirée, elle aurait vu Pierrot, retrouver sa tranquillité d'esprit, et la joie renaîtrait. Dès que Michel eut disparu, elle courut du côté de l'écurie. « Pierrot ! Pierrot !» La litière piétinée gardait la trace du passage des hommes et de leur lutte acharnée avec l'animal, mais l'écurie était vide. « Pierrot ! Pierrot !» Elle le cherchait partout, le cœur torturé d'angoisse et de remords. Quelquefois, elle s'attendrissait. « Mon Pierre, c'est toi que j'aime. Tu le sais bien que c'est toi. » En quittant leur travail, les forgerons, la voyant errer au hasard, s'arrêtèrent. Ils avaient toujours leurs mains noires et leur tablier de cuir. Tandis que Rose-Anne parlait, leurs yeux, très brillants sous la peau grise, restaient fixés sur elle. Renseigné, l'aîné demanda, surpris. « C'est la mort du cheval qui l'a épouvanté comme ça, votre garçon ? En voilà-t-il un petit sensible ?» Rose-Anne gardait le silence. Le plus jeune, un blond, au teint de fille sous la peau salie, reprit, encourageant. « Nous le retrouverons, votre Pierrot. N'ayez pas peur, Rose-Anne. » Et tout de suite, les deux frères partirent à la recherche. Toute une heure passa. Puis le jour pâlit. Le soir venait. Au couchant, des nuages mauves aux formes allongées se baignaient dans une atmosphère de soufre. Et des terres fraîchement remuées montaient une haleine lourde, traînant au ras du sol de longues écharpes diaphanes et déchirées. Rose-Anne, le cœur trop plein d'inquiétude pour pleurer, continuait d'errer autour de sa demeure. Tout à coup, sur la route, elle aperçut Michel. Elle eut un sursaut de surprise. Il lui semblait qu'il la quittait à peine. Michel, en la reconnaissant, avait hâté le pas. Dès qu'elle le vit près d'elle, Rose-Anne se mit à sangloter, retrouvant tout à coup des larmes. « Michel, mon petit garçon, il est parti tout seul, il n'est pas revenu, il est perdu, et c'est ma faute !» Il répondit, agacé. « Est-ce qu'il y a des loups dans la contrée ?» Et il chercha à l'entraîner dans la maison, loin des passants et des curieux. Mais elle se remit à marcher au hasard. Il la suivait de tout près, irrité de ne plus retrouver en elle la fièvre de naguère. Mais il s'efforçait de lui cacher son impatience. À la fin, comprenant que rien ne l'arracherait à son inquiétude, il se résigna. « Je vais vous le chercher, votre gars, et dans 10 minutes je vous le ramène, aussi sûr que je vis. » Elle se récria, effrayée. « Oh non, non, pas vous !»« Pourquoi, pas moi ?» Elle expliqua la voix voilée. « Les forgerons y sont allés !» Michel ne répondit pas. La fièvre que Rose-Anne avait allumée dans son sang ne s'éteindrait plus à présent. Alors, entre lui et cet enfant à qui jusqu'ici Rose-Anne l'avait sacrifié, cet enfant de l'autre dont la vue l'horripilait, il y aurait la lutte. Il triompherait de lui une seconde fois ou il s'en irait pour ne plus revenir. Il dit enfin résolu. « Rose-Anne !» Mais elle eut un cri étouffé, l'écarta sans l'entendre et s'élança. « Mon Pierrot !» Michel, adossé au mur, la regarda courir au-devant des forgerons. Entre les deux colosses, l'enfant maigrelé semblait une toute petite chose sans importance. Comme le groupe approchait, le cadet des frères, le blond au teint de fille, disait « C'est pas la peine d'en parler, Rose-Anne !» Et il la reluquait d'un œil d'envie, mais sans chercher autrement à la courtiser. Si elle se décidait pour quelqu'un, ce serait pour Michel, tout le monde le savait. Rose-Anne ne répondit pas. Elle n'avait pas entendu ce qu'il disait. Elle ne regardait pas non plus la petite figure toute boursouflée par les larmes. Elle ne voyait plus rien que la robuste silhouette de Michel adossée au mur, et la pensée secrète qu'elle chassait depuis une heure revenait, si précise cette fois, si certaine qu'elle ne pouvait plus l'écarter. C'était la vue de Michel qui avait fait fuir le petit garçon. Il l'avait vu arriver de loin et il s'était enfui, et ce serait toujours ainsi. Tout à coup, Pierrot eut un recul si brusque que les deux forgerons, sans défiance, n'eurent pas le temps de le retenir. Il leur avait échappé, et il courait à travers champs, sans regarder ni à droite ni à gauche. il se sauvait à toutes jambes comme si derrière lui quelque fantôme invisible poursuivait. L'aîné des frères murmura « Ah, le pauvre !» Mais le blond, regardant Rose-Anne, ajouta « Ne craignez rien, Rose-Anne !» En quelques enjambées, les deux hommes eurent rejoint l'enfant. Et l'aîné, le barbu, au poil rude, le voyant tout essoufflé et si secoué de chagrin, lui caressa la tête de sa main droite. « C'est donc pas encore fini, mon petit ?» Rose-Anne rejoignit lentement Michel. Elle tremblait si fort qu'elle alla s'appuyer contre le mur à côté de lui. « Michel !» Elle rattrapa son souffle et acheva. « Je ne peux pas. L'enfant en mourrait. » Michel tressaillit. L'aiguillon de la souffrance pénétrait tout à coup si profond que son ordinaire fierté l'abandonnait. Il protesta, la voix suppliante. « Ce qui est promis, Rose-Anne !» Elle reprit sans le regarder. « Ce serait comme si, de ma propre main, je tuais l'enfant. Je ne peux pas !» Il ne protesta plus. Il la regarda un instant, si résolu sous sa pâleur de cendre. Puis, le ton bref, il lui jeta « Comme vous voudrez !» Et enfonçant son chapeau sur les yeux, il s'en alla. Immobile, Rose-Anne le regardait s'éloigner. Mais tout à coup, voyant les forgerons approcher avec le petit garçon, elle refoula son chagrin. Les larmes l'étouffaient et elle emportait l'enfant, le visage caché contre lui. « Oh, le méchant, le méchant !» Les mains tremblantes et hâtives, elle le coucha sans rien dire. Dès qu'elle se trouva libre, elle alla s'asseoir dehors. Elle n'avait plus envie de pleurer. L'œil sec, elle regardait la route par où Michel était parti. Et tout lui faisait mal. La beauté du soir, les étoiles qui brillaient, l'effort de la nature vers la vie, les grillons dans l'herbe, le vol sournois des insectes nocturnes, tout ce qu'elle voyait et tout ce qui la frôlait. Oh, le méchant ! Quand la fraîcheur humide de la nuit glissa autour d'elle, elle se réveilla comme d'un long songe, se leva et rentra. Elle regardait de loin le petit garçon. C'était un enfant cruel qui lui avait pris son bonheur. Il l'avait brisé comme un jouet sans valeur. Oh, le méchant ! Mais tout à coup, elle s'approcha. Autour des paupières closes du petit garçon, une humidité était restée, et le visage, gonflé par les larmes, était pâle. Oh, si pâle! Et comme la mère se penchait pour le regarder de plus près, l'enfant fluet lui passa les bras autour du cou. « Maman !» Alors, brusquement, elle le prit. Elle le serrait contre elle, éperdument. Il était le trésor à qui elle avait tout sacrifié. Et à cause de son grand sacrifice, elle l'aimait tout à coup davantage. « Maman !» La joue collée à celle de sa mère, l'enfant chétif, au cœur fermé, hésitait. À la fin, sourdement, il se décida. « Maman, la grise, cet homme-là, où est-ce qu'il l'a mise ?» Elle tressaillit. Si clairement, elle revoyait Michel tirant la corde et s'en allant du côté des solitudes. La clairvoyance instinctive de Pierrot lui faisait mal. L'attouchement trop brutal rouvrait toute grande sa blessure. Elle recoucha l'enfant sans répondre. Jamais plus Michel ne revint. Pendant longtemps, quand le petit garçon dormait et que le ciel fourmillait d'étoiles, Rose-Anne allait s'asseoir dehors. Elle croisait ses mains sur ses genoux et regardait la route. Puis ses joues pâlirent et sa peau fine se fripa. Les forgerons, en la voyant vieillir si vite, s'affligeaient, mais ni l'un ni l'autre n'osaient s'offrir à la consoler. Enfin, Michel se maria. Rose-Anne ne vint plus s'asseoir dehors. Elle allait promener le petit garçon dans la campagne, et les forces que la mère perdait, l'enfant les lui prenait. Ses membres s'allongeaient, ses joues redevenaient rondes et dures. Il avait retrouvé son ancienne robustesse. Les forgerons, suspendant leur travail, regardaient passer le couple, puis sur le fer brûlant, les coups de marteau se précipitaient. Cependant, quand revinrent les jours tièdes, au parfum grisant, la figure pâlie de Rosanne se colora légèrement. Puis, peu à peu, à mesure que le mystérieux retour de la vie agitait davantage la terre, la peau molle et défraîchie du visage se tendit sur la chair qui revenait. Le grand mal silencieux, lentement, se guérissait. Un jour, le jeune forgeron, voyant Rose-Anne sur son seuil, presque aussi fraîche et alerte qu'autrefois, s'arrêta brusquement. Il l'avait longtemps convoitée, sans jamais oser le lui dire. Cette fois, la parole lui échappa, malgré lui. « Rose-Anne !» Elle se retourna, rencontra les yeux de convoitise, comprit, secoua la tête et rentra dans la maison. Ce qu'elle avait sacrifié à l'enfant, aucun homme sur la terre ne pouvait plus le réveiller. Cela était mort, mort pour toujours. Mais la paix était rentrée dans son âme, et l'enfant était le trésor.